L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local, en compagnie de Claire. Bonjour Claire, comment ça va ?
Eh oui, bonjour Marie, bonjour tout le monde, en direct à Laval, toujours temps moyen aujourd'hui, mais bon, ça va, c'est vendredi, donc on est content.
Donc il y a le moral qui suit, en tout cas, même si il fait pas super beau, hein, on va pas se le cacher, un peu à l'image de toute cette semaine. Aujourd'hui, en tout cas, on va parler... Aujourd'hui, et d'ailleurs toute cette semaine, c'est la semaine de l'olympisme et du paralympisme. Et Claire, tu as choisi de nous faire découvrir pour l'occasion le laser run lors d'une initiation avec le champion Brice Loubet et des lycéens lavallois. Et puis, ces blagues n'attendent que de retrouver leur public. Jean-Luc Houssin est clown hospitalier. Il ne peut plus faire rire les malades à l'hôpital, mais il planche sur un nouveau spectacle. Il va nous expliquer tout ça. Et puis en fin d'émission, vous pourrez entendre le dernier épisode de notre série autour de l'atelier de menuiserie partagée à Keulen-Saint-Gaud, avec tous les détails pratiques pour en profiter et pourquoi pas, si vous vous êtes jamais posé la question, susciter des vocations.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité, de plus en plus de variants détectés dans la région.
Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, 40 cas de variants du coronavirus sont confirmés dans les pays de la Loire, dont un premier en Mayenne, sans oublier une centaine de cas probables encore à étudier. Dans le département, désormais, tous les tests PCR positifs sont soumis à la technique du criblage, qui permet de détecter la présence d'un variant. L'épidémie est sur un plateau élevé, sans forte augmentation, selon Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'ARS, avec un taux d'incidence à 166,7 pour 100 000 en Mayenne.
150 manifestants pour le maintien des emplois.
Ils ont répondu hier à l'appel national à la grève lancé notamment par la CGT, FSU et Solidaires. Les manifestants ont dénoncé des licenciements injustifiés et militent pour une hausse du SMIC et plus globalement des mesures pour limiter la précarité des salariés.
Une nouvelle tête pour la SPAM en Mayenne.
La CPAM, oui, Caroline Bonnet a remplacé depuis le 1er février Jean-Baptiste Calcoen à la direction de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne. Elle a déjà été directrice adjointe de la CPAM du Morbihan et ensuite celle d'Ille-et-Vilaine. En parallèle de la gestion de la crise, Caroline Bonnet souhaite promouvoir l'essor du numérique en santé et rester attentif aux assurés les plus vulnérables. Autre nouveauté, le centre d'examen de santé déménage dans les locaux de la CPAM dès lundi prochain. Vous pouvez y bénéficier gratuitement de conseils autour de l'alimentation, des addictions, de la vie affective et sexuelle ou encore du sommeil par exemple, mais aussi d'une aide dans vos démarches de santé. Accès sur inscription sur uc-irsa.fr.
Nouveau venu au conseil municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne.
Après la démission de Thomas Richoux il y a un mois, l'élu tête de liste aux élections municipales en mars 2020 ne voulait plus occuper son siège d'élu d'opposition. Il a été remplacé par Grégory Boisseau, arrivé en 5e position aux élections.
Moins de pression au robinet si vous habitez Mélé-du-Maine.
Et une raison à ce phénomène, les travaux de réhabilitation du château d'eau et du réservoir du captage de Montavallon à partir de lundi prochain, le 8 février et jusqu'au 20 avril. Pour assurer les besoins des habitants de la ville de Mélé, l'eau sera desservie par le château d'eau de Saint-Denis-du-Maine avec une baisse de pression, notamment aux heures de pointe, c'est-à-dire entre 7h et 9h le matin et de 18h à 21h. Dans la mesure du possible, essayez de limiter votre consommation pendant ces créneaux.
Le chemin de halage inondé à Laval.
À cause des fortes pluies de ces derniers jours, la Mayenne a inondé certaines portions du chemin de halage. Vous avez peut-être pu le remarquer lors de vos balades. Et c'est notamment le cas au niveau du club nautique d'Aviron à Laval. Et pour pouvoir continuer justement votre balade à cet endroit, vous pouvez emprunter la rue de la Filature qui longe le chemin de halage.
Brigitte Macron à la rencontre des collégiens de Goron.
La classe orchestre du collège Francis Lalard de Goron a rencontré la première dame à l'occasion de l'enregistrement d'un concert en faveur de l'opération Pièce Jaune, une symphonie pour la vie qui sera d'ailleurs diffusée ce mercredi 10 février à 21h sur France 3. De belles rencontres hier donc pour les collégiens qui ont aussi pu croiser entre autres le violoncelliste Gauthier Capuçon, le chanteur Mathieu Chédid ou encore Maître Gims.
Deux équipes mayennaises encore en lice en Coupe de France.
Changé affronte ce dimanche les Herbiers lors du 7e tour de Coupe et le Stade Lavallois, équipe de nationale, on le rappelle, se déplace à Vigneux de Bretagne qui évolue en R2. C'est une affiche là du 6e tour, un peu en retard à cause de matchs reportés.
Et Marie, elle a une du haut en joue. Aujourd'hui, la Mayenne à nouveau représentée dans The Voice.
Oui, par Margot Joubert, qui tente sa chance demain soir dans le concours de chant de TF1. La jeune femme originaire de Ménil rejoint la liste des Mayennais participants de Timothée Gigant Sanchez en 2018, au Cranet Timéo Béas cette année. Margot est en troisième et dernière année dans une école de comédie musicale parisienne. Et en parallèle, elle a créé un groupe de chanteurs qui organise des concerts au bénéfice d'associations caritatives comme LM Petit Pas, Marie, Rêve et Espoir ou Le Semi-Famille 53. Ce n'est donc pas une débutante hein, que vous pourrez voir à l'écran ce samedi soir lors des auditions à l'aveugle. Lui est déjà un champion reconnu, mais il s'apprête à laisser le vélo sur piste pour la culture de bambou. Après 7 titres de champion du monde de cyclisme sur piste, François Pervis espère conclure en beauté sa carrière au JO de Tokyo cet été. En parallèle, il prépare déjà sa reconversion. C'est ce qu'il explique en page 6 de votre hebdomadaire. Déjà consultant pour sa propre société et commentateur sportif, il se lance un nouveau défi, reprendre la ferme familiale et commencer la culture de bambou. Les premiers seront plantés en mai. Et puis on part du côté de Bouer avec Michel Andrieux qui vous propose de plonger dans le passé. Son ouvrage retrace 1000 ans d'histoire locale à partir du premier seigneur connu, le seigneur Raillé, en 980 justement, puisque c'était il y a bien un millier d'années. Pour ses recherches, cette passionnée d'histoire s'est appuyée sur les archives de Laval, d'Angers, du Mans. Et Michel Andrieux l'assure, chaque habitant de la Mayenne peut se retrouver dans ce livre. Bien évidemment, ce n'est qu'une mise en bouche, hein, trois petits sujets du journal du Haut-Anjou, paru ce vendredi. Et à l'occasion de cette semaine olympique et paralympique qui se poursuit jusqu'à demain, tu t'es rendu mercredi, Claire, au lycée Ambroise Paris.
Et oui, en effet, l'Union nationale du sport scolaire de Nantes a mis en place dans la cour du lycée plusieurs stands sportifs. Pascal Lester, directeur départemental de l'UNSS, nous explique les objectifs de ces stands.
C'est de montrer aux élèves que, avec le contexte sanitaire, avec les conditions dans lesquelles on vit en ce moment, il est très important de bouger. La santé, on a plein d'élèves qui ne font plus grand chose en activité physique et donc qui ont tendance à prendre un peu de poids, qui ont le moral dans les chaussettes, qui ne sortent pas beaucoup de chez eux. Donc l'éducation nationale a décidé de mettre en place pendant toute cette semaine des activités sportives pour pouvoir montrer aux élèves que voilà, c'était toujours aussi cool de faire du sport. On a décidé sur la Mayenne d'axer la semaine sur le laser run. Laser run, laser pour les pistolets laser, du tir au pistolet, et run pour courir. Le laser run, c'est une des épreuves du pentathlon moderne.
Et qui de mieux pour nous expliquer le pentathlon moderne qu'un membre de l'équipe de France en préparation pour les JO 2024, Brice Loubet, qui était intervenant ce jour-là auprès des lycéens.
Donc dans le pentathlon moderne, il y a de la course à pied, du tir au laser, de la natation, de l'escrime et de l'équitation. Et donc cette dernière épreuve laser run, c'est un peu comme du biathlon tir-course enchaîné. Ce qui est le plus dur dans notre pentathlon, c'est en fait l'effort, enfin c'est tirer après un effort. C'est important de sensibiliser, surtout en plus dans ces périodes en ce moment avec les conditions sanitaires. C'est quand même un sport qui est assez accessible et qui est plus ludique que seulement courir. Parce que globalement, le plus important dans ce sport, c'est la course à pied. Et donc, aller faire un footing, bah, des fois, c'est pas très marrant. Et là, se dire bah, qu'on va faire un footing et qu'en même temps, on va tirer au laser, c'est très ludique, très intéressant. Donc voilà, là, dès la première petite compétition que je viens de faire à l'instant, les 5, ils étaient à fond, ils se marraient entre eux parce que voilà, il y a le côté compétition et en même temps ludique de « j'ai réussi, t'as pas réussi » et de se comparer aux autres. Il y a le côté confrontation aussi. Donc les valeurs du sport, on les retrouve dans toutes les valeurs, que ce soit dans les valeurs de l'entreprise, dans les valeurs de pour soi. Donc c'est important de faire du sport pour se connaître soi-même et pour après reproduire ces schémas dans la vie de tous les jours. Et le laser run, quand on voit les courses de fauteuil roulant qu'il y a d'aujourd'hui, les courses en fauteuil roulant plus du tir, ça serait totalement accessible dans un endroit très simple comme une piste d'athlétisme. Ou voilà, donc c'est l'enjeu aussi pour notamment Paris 2024 de promouvoir ce côté paralympique à l'intérieur de notre sport.
Pour Sylvie Flaïeul-Vermet, entraîneuse de tir laser, justement, le sport paralympique, c'est une question d'adaptation.
On fait même tirer des malvoyants, des personnes en situation de handicap physique ou mental. Et on adapte en fait nos distances, nos produits en fait à cette catégorie-là aussi. Et je pense que c'est très important. Je rêve d'un championnat handi-valide ensemble avec un valide et avec un handi et un valide qui soit voilà. Enfin, qu'ils puissent faire un championnat ensemble. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je dirais qu'en tir, la meilleure manière de l'aborder, en fait, c'est avec la vue. Et en leur disant que même s'ils ont un défaut, eux, même déjà dans leur vue, en fait, on peut s'adapter, on peut adapter le tir quand même. Donc, c'est vraiment une discipline qui peut être abordée par tout le monde. Donc, il n'y a pas de différence, finalement, entre la formation d'une personne en situation de handicap et une personne valide, puisque de toute façon, on a tous quelque chose à leur apporter et ils nous apportent tous quelque chose.
Merci beaucoup Claire pour ce reportage donc réalisé au lycée Ambroise Paré à Laval. Et puis si vous voulez un peu mieux vous rendre compte de ce qu'est le laser run, nos reporters de choc donc Claire et Emma ont publié une vidéo sur notre compte Twitter L'Autre Radio. Je vous invite à aller voir. Eux aussi sont empêchés de travailler. Les clowns dans les hôpitaux qui égayent la vie des malades. On entendra le témoignage de l'un d'entre eux dans quelques minutes juste après Fada Freddy avec True.
That I never shook my shadow. Every day trying to trick me into doing battle. Calling out faker, only get me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cattle. Building your lenses, digging your trenches. Put me on the front line, leave me with the dumb mind. With no defenses, but your defenses. If you can't stand or feel the pain, then you're senseless. Since this, I've grown up some different kind of fighter. And when the darkness come, let it inside ya. Your darkness is shining, my darkness is shining. I have faith in myself. True love. I've seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you chosen before you gon' die? I tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world comes from dividing. Say you're my lover, say you're my homie. Take my chain back, slit my throat, take a bath in my blood, got to know me. All out of my secrets, all of my enemies are turning into my teachers. Because light's blinding, no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? Your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in ourselves. I'm only loving, I'm only loving, that's what I'm trying to do, is only loving. I'm only loving the truth I'm loving. I'm only loving, that's what I'm trying to do, is only loving. I'm only loving the truth I'm loving. Your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in myself. Your darkness is shining, my darkness.
Freddy sur l'autre radio avec Truth. Évidemment, vous écoutez l'agité du local et aujourd'hui, on s'intéresse à un métier mis à mal par l'épidémie de Covid, peut-être un métier auquel on ne pense pas spontanément. Les clowns dans les hôpitaux, interdits d'exercer depuis le mois de mars dernier, ils gardent leurs blagues, leur folie et leur tendresse pour un public qu'ils espèrent évidemment retrouver au plus vite. Jean-Luc Houssin se définit comme un clown en milieu de soins. Il a créé l'association Clown Hospitalier 53 et nous définit tout d'abord sa mission.
Alors en fait, c'est tout simplement d'aller apporter une bulle de fantaisie, un moment d'égarement, faire oublier tout ce qui est autour du soin, quoi, vraiment offrir une bulle de une parenthèse enchantée, sinon, ouais, pour que le patient ou le visité, qui peut être aussi une personne âgée, oublie le temps d'un instant et rigole ou partage une émotion avec nous, quoi.
Et alors, ça passe par quoi, plus très concrètement?
Ça passe par le rire, très souvent. Après, ça va être des émotions comme il y en a qui vont avoir besoin de plus de tendresse, de câlins, des gens qui vont avoir un besoin de discuter, tout simplement, d'échanger avec le clown, qui lui est toujours en duo en plus, donc quoi qu'il arrive, il va s'installer un jeu à 3 ou 4, ça va dépendre s'il y a un accompagnant aussi avec la personne visitée.
C'est plus facile justement d'être à deux ou à plusieurs en tout cas?
Oui, ben on intervient toujours à deux, oui. Quoi qu'il arrive, ça va être plus facile parce que si on intervient dans une chambre, par exemple en pédiatrie, que l'enfant se cache ou a peur, le duo va pouvoir jouer en restant tout à la porte, sans entrer, va jouer entre eux ou il y a un des deux clowns qui va débloquer la situation en ayant lui aussi peur. Et quelquefois, même si l'enfant reste caché derrière son drap ou juste dans le regard, on va voir qu'il s'est passé quelque chose et au moins il aura vécu un petit truc. Et ça dédramatise aussi le fait qu'il puisse avoir peur.
Et alors, ça veut dire que vous avez votre partenaire attitré ou comment ça se passe?
Non, on a un partenaire du jour, ça va dépendre de la disponibilité de chacun, mais le clown s'adapte très bien à de nouveaux partenaires.
Donc vous intervenez en Mayenne et en Sarthe, j'ai cru comprendre, auprès de quel public?
Alors en Sarthe, jusqu'à aujourd'hui, on intervenait... au centre hospitalier, en pédiatrie, de jour et en pédiatrie chirurgie. Et en Mayenne, on a signé une convention avec l'hôpital de Laval l'année dernière en pédiatrie et en gériatrie aussi, pour des personnes âgées.
Et donc c'est deux publics différents, mais est-ce que c'est aussi deux manières de faire rire différentes ou pas? Comment est-ce que vous adaptez à ces deux publics?
Nous, j'ai envie de dire qu'on s'adapte, oui et non. On arrive en improvisation totale, nous. On va avoir un public qui, en pédiatrie, va être plutôt dans le jeu, dans la rigolade, dans le l'effet de surprise qui inclut. Et en gériatrie, ça va être plus dans... Il y a une recherche plus de paroles et de tendresse, de câlins, beaucoup de demandes de bisous aussi. Donc c'est une approche qui, à la base, reste identique, mais après, va être plus centrée sur l'âge et sur la situation.
Forcément, j'imagine que vous faites très attention à la manière dont vous êtes accueilli aussi et comment la personne reçoit votre arrivée.
Oui, tout à fait. Ouais. On fait une entrée douce. Après, on voit, il y a des visités, que ce soit enfants ou adultes, ça va être très rapide, ça va se faire tout de suite. Là, il va y avoir un truc qui va passer, ça va monter en folie, j'ai envie de dire, très rapidement. Et il y a des personnes où ça va être un début plus calme, mais au final, on va passer un très bon moment aussi, quoi.
Et est-ce que, alors vous parliez d'enfants qui parfois ont un peu peur, en tout cas au début, ou peut-être des personnes qui ne sont pas toujours à l'aise, là encore une fois peut-être au début, est-ce que vous utilisez, je ne sais pas, des accessoires pour un peu aider à briser la glace?
Alors il y a certains clowns qui viennent sans aucun accessoire, juste avec eux-mêmes, leur folie. Et moi j'ai souvent une petite besace où je vais avoir de quoi faire un peu de musique, c'est une histoire de maracas, moi j'ai toujours... un petit doudou, des nez rouges, un sifflet, donc après ça va dépendre du moment, quoi, en fait.
Là, les clowns hospitaliers sont plus autorisés aujourd'hui?
Non, on n'intervient plus à l'hôpital depuis... on est intervenu que deux fois l'année dernière, juste pour vous donner une idée. Et là, on n'a toujours pas d'autorisation à retourner à l'hôpital, en fait.
J'imagine que là aussi, vous attendez ça avec impatience?
Oui, tout à fait, crépine de patience, on travaille entre clowns mais à distance, donc tout ça, il y a un gros manque qui se fait à ce niveau-là.
Là, c'est vrai que tout se fait aussi par le regard, puis le fait d'être là, la présence. C'est vrai que là, ça doit manquer, en tout cas en ce moment.
Non, ça doit manquer au service hospitalier aussi, qui travaille très dur depuis le début de cet événement difficile. Et puis, ça doit manquer aux enfants et tout. Même à nous, ça nous manque les premiers, j'ai envie de dire. Oui. On n'a pas un suivi, on ne peut pas s'attacher non plus à tout le monde, sinon ce serait trop dur. Nous, on arrive, on a un nom et un âge. Et après, on fait un débriefing sur ce qu'on a vécu, mais on n'a pas de suivi du patient après.
Et c'est mieux justement pour maintenir cette distance ?
Je pense, ouais, parce qu'on voit, enfin, on voit quand même des choses plus ou moins lourdes et difficiles. Et si on devait s'attacher ou faire perdurer une personne, ce serait dur. Il faudrait ramener ça chez nous en plus, ce serait pas facile. On reste sur un secret professionnel quand même.
Oui, alors que là, vous parliez de parenthèse tout à l'heure, on est vraiment dans cette idée-là.
Ouais, tout à fait, ouais, puisque souvent, il va se passer pour certaines personnes 2 minutes, pour certains, ça va être un peu plus long, 5-10 minutes, et ce sera le seul passage pour certains qu'on aura, et heureusement d'ailleurs, si on les revoit pas, c'est que pour eux, tout va bien, c'est que du bonheur pour nous aussi, ça.
Et alors, donc, pourquoi pour vous c'est important d'intervenir à l'hôpital, donc que ce soit auprès de ces malades, qu'ils soient plus jeunes ou un peu plus âgés, pourquoi avoir fait ce choix ?
Alors pourquoi ce choix, en fait, pour l'avoir vécu en tant que parent d'enfant malade, c'est des moments où on s'embête, clairement, où l'enfant a des moments où il a le moral en baisse et tout. Il y a eu des moments aussi où j'ai partagé, justement, j'avais un enfant qui était petit, donc moi j'étais dans le même couloir que l'oncologie et j'ai partagé des moments avec des enfants qui avaient le cancer. On a partagé des bonnes après-midi, alors que moi j'ai été juste là pour être parent d'enfants malades comme d'autres. Et c'est en rentrant que je me suis dit, si on juste comme ça on peut partager des après-midi, et que ça leur met du baume au cœur, je peux certainement faire plus. J'ai creusé et je me suis lancé dans le clown, en fait.
Donc j'imagine qu'on se lance pas comme ça, qu'il y a une formation ou en tout cas des contacts avec d'autres clowns hospitaliers. Comment vous vous êtes formé ?
Alors, il y a des formations professionnelles, en fait. Moi, je l'ai fait chez Art Rire et Clown et compagnie en Isère. Après, il y en a plusieurs, mais non, on n'intervient pas comme ça. On ne devient pas clown du jour au lendemain, même si on a déjà un clown en soi et qu'on ne le connaît pas forcément. On a une formation qui est vraiment complète. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on vous apprend, justement, dans cette formation ?
On commence par... on apprend l'improvisation théâtrale, en fait. Après, on passe par de la communication non violente, une approche, toutes sortes d'approches qui soient douces quand même malgré tout. On nous apprend aussi à avoir devant nous une personne et non un patient, ou avoir une couleur ou une religion. Ça, on apprend tout ça. Enfin, nous, ce qu'on voit, c'est un enfant. On voit pas un enfant de couleur ou un enfant, je sais pas, arabe ou juif. On voit une personne et on est là pour la personne et c'est tout ça qu'on nous apprend, en fait.
Et alors, quel a été votre parcours, justement, avant de suivre cette formation ?
Moi, j'ai pas de parcours avant cette formation, en fait. Je me suis vraiment lancé dans un truc que je connaissais pas. Du jour au lendemain, j'ai trouvé cette formation qui me plaisait. J'ai fait la demande, elle a été acceptée et je me suis lancé, en fait.
Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'avant, vous aviez fait déjà du théâtre, un peu de spectacle ou pas du tout ?
Ah non, du tout, non, c'était un... C'est complètement nouveau pour moi, c'était une aventure nouvelle et qui allait sans doute me surprendre, je pense, et ce qui est arrivé aussi d'ailleurs.
Depuis que vous êtes clown soignant, clown hospitalier, qu'est-ce qui vous plaît en fait ?
Ce qui me plaît, moi j'ai envie de dire déjà ce que ça m'a apporté, ce que ça m'apporte aujourd'hui. Moi j'ai gagné en confiance en moi. Ce qui me plaît concrètement, c'est ce qu'on, nous on apporte, la joie et tout, mais on reçoit beaucoup aussi, on reçoit beaucoup de joie, d'énergie et tout, quand on voit des petits bonhommes là, qui ont une force incroyable et qui se battent et enfin voilà, je sais pas trop comment exprimer, mais c'est un plaisir partagé à chaque fois avec le duo et avec le visité.
Oui, c'est pour l'expérience aussi, parce que c'est vrai qu'on peut se dire de l'extérieur, c'est un milieu, en tout cas l'hôpital, qui paraît pas être le plus joyeux qui soit. Et pourtant, vous avez choisi donc d'intervenir dans les hôpitaux, il y a bien une raison, c'est aussi pour ça. Ça vous touche peut-être encore plus ?
Oui, parce que quand on le vit en tant que parent, on voit des couloirs carrément, des moments, on va voir quelquefois de la tristesse et tout. Et nous, on y arrive, on, on oublie tout ça, on vient avec notre folie, on vient avec, on n'est pas infirmier, on prend le temps, on va pas hésiter à courir. Moi, j'adore courir dans les couloirs de l'hôpital.
Et justement, comment c'est reçu en général par les soignants? J'imagine que ça joue aussi.
Bon, on va avoir deux types de soignants. On va avoir les personnes qui vont être vachement ouvertes et qui vont rentrer dans le jeu avec le clown très rapidement. Et il va y avoir le soignant ou l'infirmier, n'importe qui va rester du très professionnel, très fermé. Et bon, on va pas aller l'embêter, on va le laisser faire son travail. Mais en général, on est bien accueillis.
Puisque comme vous disiez, c'est aussi une bouffée d'air pour le patient, le malade, et donc qui peut aussi faire du bien un peu à tout le monde finalement.
Oui, parce qu'on vient à la base pour les patients, mais il va y avoir autour de tout ça, il va y avoir les personnes qui viennent visiter les patients, les médecins, et on va passer dans les bureaux des secrétaires, tout ça. Tout le monde profite en fait de la venue des clowns finalement.
Donc si j'ai bien lu, j'ai cru comprendre que vous étiez en train de préparer un spectacle, c'est ça?
Oui, c'était un autre. Enfin, j'ai découvert le clown théâtre au travers de ma formation, et aujourd'hui j'avais le souhait de créer un solo. Ce qu'on a commencé à faire, sauf que avec la situation actuelle, on n'a plus de lieu pour intervenir, puisque les préfectures ordonnent la fermeture des salles un peu partout, donc on est bloqué, mais c'est un rêve que je vais mener à terme, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème là-dessus. Je continuerai mes interventions, on va les reprendre très prochainement, je l'espère, mais ce sera en parallèle, moi. C'est un spectacle qu'on pourra aussi peut-être emmener dans les salles, dans les hôpitaux ou dans les EHPAD sans problème en plus.
Et donc vous seriez seul sur scène ou vous travaillez avec d'autres personnes sur ce projet?
Alors moi je serai seul sur scène, mais je le travaille avec une petite équipe. Un spectacle c'est quand même une création qui demande du temps et aussi un investissement au niveau des écrits, de la mise en scène, tout ça. Donc non, j'ai ma petite équipe qui me soutient en plus, donc. C'est super aventure encore.
Et donc là, du coup, vous en êtes où très concrètement, voilà, dans la création de ce spectacle?
Alors concrètement, on a très peu avancé parce qu'on a fait, on a un écrit, on a une trame, mais on a fait qu'une un premier travail sur scène de 2 heures, c'est tout ce qu'on a fait. Donc j'ai vraiment très peu travaillé sur ce spectacle encore.
Donc là, l'idée, c'est de vous aimeriez si possible trouver un local pour vous accueillir, pour vous entraîner?
Oui, c'est ça. Ouais. L'idée, c'est de trouver une petite salle, un lieu quelconque qui est suffisamment grand pour nous permettre de travailler ce spectacle et de le préparer pour, j'ai envie de dire, l'après-coronavirus, finalement.
Et si vous voulez le soutenir et l'aider à produire son spectacle, vous pouvez contacter Jean-Luc Houssin par mail à clownhospitalier_uspt, tout attaché, @gmail.com. On revient d'ici quelques minutes après Human Song de Majo.
Skeleton in the wardrobe could be real.
Nous sommes le vendredi 5 février, vous écoutez toujours l'autre radio et notre émission quotidienne, l'Agité du local. Notre rendez-vous du vendredi, c'est la chronique Service Civique, réalisée aujourd'hui à Nantes par Jet FM, qui a tendu son micro à Maya et Jennifer. Elles sont volontaires en service civique au sein de Pâques la Lune, une association culturelle d'éducation populaire de l'agglomération nantaise, qui réalise des chantiers artistiques qui favorisent la rencontre et l'échange entre les quartiers populaires. Les jeunes filles nous livrent leur regard sur leur mission, les plus, les moins et les enjeux d'un tel engagement.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Maya et Jennifer effectuent une mission de service civique au sein de Pâques la Lune, une association culturelle d'éducation populaire qui réalise des chantiers artistiques favorisant la rencontre et l'échange dans les quartiers populaires de l'agglomération nantaise notamment. Maya et Jennifer nous livrent leur regard sur leur mission, ses plus, ses moins, les enjeux d'une telle mission à leurs yeux, et elles évoquent la vie après.
Bonjour, je m'appelle Maya, je suis en service civique à Pâques la Lune depuis début septembre jusqu'à début mai.
Bonjour, je m'appelle Jennifer, je suis en service civique à Pâques la Lune depuis début juin et jusque début février. On participe aux animations qui ont lieu tous les jours de la semaine, dans différents quartiers de Nantes, donc Nantes-Nord et Nanterre.
En ce moment, par exemple, sur le quartier Nantes-Nord, on est en train de faire des fresques pour cacher les travaux qui sont en cours, en fait, en ce moment ici. Ce qui me plaît le plus, du coup, dans mes missions, je pense que c'est la rencontre avec les habitants, le partage qu'on peut avoir avec eux. Ouais, passer du temps et rencontrer des gens, je pense que ça, c'est vraiment une des choses qui me plaît le plus.
Ce qui me plaît le plus, c'est en fait la variété de choses qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on prépare à la fois les animations et en même temps on peut voir ce que ça donne directement, donc voir ce que notre travail donne et donc voir si ça plaît. Et puis on peut modifier du coup pour les cycles suivants ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Je pense que ce qui me plaît le moins dans dans ma mission, ça va être plus aussi de l'ordre parfois du relationnel aussi. Des fois en fait, il y a des choses qui sont très difficiles à voir. Et on ne peut pas forcément agir directement. Bah, parfois, il y a de la violence, il y a des situations en fait, auxquelles on n'a pas du tout l'habitude. Et on aimerait pouvoir interagir, mais ce n'est pas de notre ressort. Et en fait, moi, je me suis déjà retrouvée démunie face à certaines situations en me disant bah, « Je ne peux rien faire et je suis obligée d'observer, de constater. » Et c'est compliqué, en fait.
Ce qui me plaît le moins, en revanche, c'est des fois dans la préparation, ça va très vite et qu'on a l'impression de pas avoir assez de temps et que du coup on a plein d'idées mais qu'on n'a pas forcément les capacités de les mener à bien, donc c'est un peu frustrant. Et pareil pour pendant les animations, donc comme Maya disait, de faire face à des situations un peu difficiles. Donc, moi, ce que je mets derrière en termes d'enjeu, c'était de trouver une voie professionnelle en fait qui me correspond. Et je pense que j'ai trouvé vraiment ce que j'aimais faire parce que je travaille tous les jours en aimant beaucoup ce que je fais. ça m'a permis voilà, de me recentrer sur ce que j'aimais faire parce que j'étais un petit peu perdue au niveau de ma future carrière. Maintenant, j'ai un projet professionnel d'ouvrir une galerie où j'exposerai des personnes en situation de handicap. Donc d'exposer principalement de l'art-thérapie, mais aussi des artistes qui font de l'art en utilisant ou non leur handicap, en exprimant ou non leur handicap, mais histoire de les mettre en avant.
Moi, l'enjeu en tout cas que j'ai en faisant ce service civique, je ne sais pas encore ce qu'il est pour le futur, mais en tout cas, j'ai arrêté mes études parce que le système scolaire ne me convenait pas. Et en fait, j'ai cherché pendant un moment ce qui pourrait me convenir. Et le service civique, en fait, c'est un peu venu comme une solution miracle parce qu'en fait j'avais besoin de contact en fait avec les gens, de pouvoir participer concrètement à un projet et de me sentir en fait utile dans ce que je faisais. Et là ça me permet vraiment en fait d'apprendre beaucoup grâce aux autres et du coup de pouvoir peut-être trouver un peu plus en fait ce qui pourrait me plaire après.
Merci. Merci à vous.
Merci. C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Une pastille à retrouver comme toutes les autres sur notre site. Et bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, encore une fois, pour un nouveau reportage autour du service civique. Et puis, c'est notre cinquième et dernier volet de la série autour de l'atelier de menuiserie partagé, un concept encore peu répandu, développé par Carole Clavreul à Quelaine-Saint-Gaud, ici en Mayenne, avec des stages organisés régulièrement par d'autres professionnels, mais aussi et surtout une salle en accès libre, avec tout le matériel nécessaire pour travailler le bois. Mais comment peut-on en profiter concrètement? Réponse avec Carole Clavreul.
Sur février, j'ai mis des 3 jours dans la semaine, les mardis, les mercredis et les vendredis, de 10h à 18h. Et donc les gens peuvent s'inscrire en fait, alors minimum sur 2 heures. Donc ils prennent soit 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, enfin le temps qu'ils ont besoin pour faire leur propre projet. Ou pour ceux qui n'ont pas de projet, qui veulent s'initier quand même à utiliser des machines, je donne des thématiques, ce que j'appelle les ateliers participatifs. Je donne des thématiques où je décris étape par étape ce qu'il faut faire pour fabriquer l'objet. Comme ça, c'est plus facile. Ça a la personne de tout faire de A à Z, mais c'est plus facile quand on a toutes les étapes dans l'ordre. Je mets des fiches et en fait, du coup, les gens, quand à un moment donné, ils bloquent, eh bien, ils viennent me demander bah là, comment on utilise telle machine ou alors bah là, pour comment on fait ça, quoi. Donc, je suis présente, mais le but, c'est que, soit que les gens aussi se posent les bonnes questions et soient autonomes. Alors ceux qui ont du bois, qui veulent utiliser le bois parce que bah, pareil, ils ont récupéré des choses, bah, ils peuvent utiliser leur bois évidemment. Après, on ne peut pas tout amener. Je ne veux pas qu'on travaille du mélaminé. Alors déjà, c'est parce que c'est un produit que je ne trouve pas très très noble. Il y a plein, voilà. Et en plus, bah, ça abîme les machines aussi. Enfin, il faut des lames spécifiques, donc je ne vais pas m'amuser à chaque fois à changer les lames. Donc ceux qui ont du bois, ils veulent le travailler, ils peuvent. Mais il faut me prévenir avant de ce que c'est. Sinon, voilà, moi j'ai plusieurs essences de bois, du bois local que j'achète en Syrie. Et c'est bien aussi, du coup, de découvrir les différentes essences. On se rend compte, en fait, de la couleur, de l'odeur. C'est l'objectif aussi du lieu, on se pose des questions sur l'essence qu'on va prendre. On peut faire des mélanges, des assemblages, des choses qui sont des pièces uniques, en fait. Avoir du noyer, du frêne, du châtaignier, c'est des bois qui sont un peu plus jolis, qui sont des fois un peu plus durs à travailler. Mais on est content d'avoir ce rendu. Quelaine, là, on est entre Laval et Château-Gontier, pile poil à 15-20 minutes des deux villes. Donc, je vis ce rayon-là, en fait. Les Lavallois, les Castro-Gontériens, tous les villages autour. Je vais parfois à un atelier qui est au Pont-de-Cé et un autre qui est à Rennes. Et franchement, faire 2 heures de route pour bricoler, c'est pas l'idéal. Donc, je pense que voilà, faire 1 heure de route, enfin une demi-heure aller, une demi-heure, c'est le grand maximum. Dans le concept d'atelier partagé comme ça, en fait, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Quand j'ai un petit peu prospecté il y a un an, j'en voyais qui se développaient dans les villes. Strasbourg, Nantes, enfin dans les grandes villes, il y avait des projets comme ça. Maintenant, je pense qu'à Laval, il y a aussi des ateliers partagés qui se mettent en place. Dans un lieu comme ça, non, c'est vraiment des choses différentes. Moi, c'est vraiment le lieu de vie avec différentes salles. Après, si c'est partager des outils avec des établis, oui, il y aura d'autres espaces. Et c'est très bien parce que du coup, je pense qu'il faut qu'il y ait plein de lieux à se développer dans ce style-là pour que les gens prennent l'habitude. On est quand même beaucoup, beaucoup de Mayennais, donc c'est pas un atelier avec 5 établis qui va répondre à la demande. Donc plus il y en a, mieux c'est. Je pense que c'est dans le bon chemin. Tout ce mode de consommation est en train de se développer.
Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ateliermayenne.com, tout simplement, avec les différentes activités proposées et contacts pour réserver à retrouver. Évidemment, l'ensemble des interviews de cette semaine est à retrouver sur notre site l'autreradio.fr, rubrique « L'agité du local ». C'est désormais l'heure de notre rubrique initiative présentée par Claire. Faute d'événements à annoncer en ce moment, Laval réutilise ses panneaux publicitaires, Claire.
Et oui, une trentaine de photographies de la ville et de son patrimoine sont maintenant affichées sur les panneaux publicitaires des réalisations de Kevin Rouchos, le photographe de la ville. Aujourd'hui, il y en a 34 à découvrir, mais il y en aura 17 de plus dès lundi prochain.
Donc, ouvrez l'œil. Hein. On en avait parlé déjà ici dans cette émission. Vous pouvez commander à votre balcon un spectacle de théâtre.
Et oui, c'est ce que propose le Théâtre du Tiroir avec le concept « Nos spectacles pandémiques sous vos balcons ». Le principe est simple, vous n'avez qu'à appeler le 06 76 29 62 91, convenir d'un jour de représentation et à la fin du spectacle, un chapeau sera passé. Vous ne pouvez pas aller voir le théâtre, alors il vient à vous. Et le premier spectacle pandémique s'intitule « Contes humoristiques et chansons de Palestine » et c'est jusqu'à ce dimanche.
Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus hein, sur le concept, vous pouvez réécouter l'interview de Jean-Luc Bansard, le directeur du théâtre, dans l'émission du 13 janvier, toujours sur notre site. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, nom du compte, tout simplement L'Autre Radio. Merci beaucoup Claire pour toutes ces initiatives que tu déniches chaque jour. Et
oui,
pour l'émission,
Marie,
pour être avec nous, bien sûr, pour cette semaine. Bon week-end.
Bon week-end tout le monde, à lundi.
À lundi évidemment, puisque lundi ce sera le retour de l'émission, mais à l'antenne ça se poursuit bien sûr. À 19h, il y aura l'agenda où Christophe reçoit Clément Beuchet, c'est le nouveau maire de Saint-Poix, et Vianney Marzin, le directeur du pôle. Un portrait d'élu cette fois qui n'est pas exclusivement culture, puisque c'est donc le maire d'un village de 403 habitants, suivi à 20h de l'émission Passe-moi le thème, avec un sujet pointu encore ce soir, hein, puisqu'on parle des chansons des albums où on peut trouver des chats sur les pochettes. Et nous, on se retrouve, Claire vous l'a dit, pas demain, c'est le week-end, lundi à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.